verset dont j'avais parlé dimanche, c'était 2 Corinthiens 5, 4, où il est écrit « Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Et cette fin de phrase, la fin de ce verset, moi, m'a particulièrement touché, parce que c'est un principe spirituel qui est donc antinaturel. En général, c'est ce qui est mortel qui engloutit la vie. La mort prévaut sur la vie, je parle au niveau de notre personnel, la vie continue sans nous, mais en tout cas, ce qui nous concerne, c'est la mort qui engloutit la vie. Et on voit ça dans... On a plein d'exemples dans la Bible et dans la vie ordinaire qui nous montrent ce principe. En revanche, avec Dieu, c'est surnaturel, à savoir que la mort agit, et c'est pour ça que nous gémissons, mais en même temps, on se revêtit de la vie, et donc ce qui est mortel est englouti par la vie. Et ça constitue l'espérance chrétienne. Et alors, c'est drôle comment des fois un message s'articule, parce que j'avais encore en tête ce que j'ai pu vous apporter dimanche, et puis à un moment donné, j'ai trié un peu des notes que j'ai dans l'ordinateur, je faisais le tri, et puis je relisais certaines choses, et je suis retombé sur des notes, alors ça remonte au début de l'Église, hein, quand je faisais la série sur Genèse, et en lisant ces notes, j'ai trouvé que ça faisait un lien avec dimanche, donc du coup, j'avais à cœur de vous en parler, et donc j'aimerais parler de la fin du livre de la Genèse, avec deux personnes, à savoir Jacob et Joseph. Donc le contexte est celui-là, on va commencer à parler dans le chapitre 47 de deux versets. Jacob est en terre d'Égypte, il y a eu toute l'histoire, vous savez, avec Benjamin et les frères et tout ça qui retrouvent Joseph. Et donc le père arrive en Égypte et il a un dialogue avec Pharaon. Pharaon pose des questions à Jacob. Et au verset 8 et 9, il est écrit « Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie ?» Donc là, ça nous parle évidemment de son âge. Et Jacob répond quelque chose d'assez intéressant. Il dit « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Alors, le pèlerinage, en fait, c'est la vie sur la terre. Alors, juste une petite remarque, cette phrase appuie ce que l'on croit et nos convictions concernant une durée courte au niveau de la généalogie biblique. Parce que Jacob a 130 ans, donc c'est quand même pas mal, hein, aujourd'hui, qui a 130 ans. Mais qu'est-ce que Jacob dit? Il dit, ils n'ont pas été aussi nombreux que ceux de mes ancêtres. Mais quand il parle de ses pères, alors évidemment, il peut peut-être parler d'Adam, de Ève, de Mathusalem, d'autres, mais on peut imaginer que c'était quand même des générations très proches de la sienne. Et quand on croit dans une généalogie courte de la Bible, en réalité, Noé est mort. Je crois bien que Noé était encore vivant quand Abraham est né. Ou en tout cas, donc vous voyez, c'est les pères, quelqu'un comme l'arrière-grand-père peut-être de Jacob a peut-être lui vécu plusieurs centaines d'années. On n'en sait rien. Si Noé était encore vivant quand Abraham est né, il pouvait y en avoir d'autres aussi. Donc c'est intéressant de penser de cette manière. C'est-à-dire que Jacob présente à Pharaon une vie d'échec en disant « Moi, je j'ai que 130 ans » et il sous-entend qu'il ne va pas aller bien loin, et ce qui sera le cas d'ailleurs. Et puis, il dit aussi que ses jours ont été des fois difficiles. Hein, il dit « Les années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. » Et quand on le met en parallèle avec 2 Corinthiens 5, 4, c'est comme si Jacob était en train de gémir. D'accord ? Il est dans cette tente, il est vieux, et il fait un constat assez amer devant Pharaon. Alors, nous savons que Jacob est quelqu'un de rusé. C'est quelqu'un qui a maintenant de l'expérience. Donc, il ne se présente pas à Pharaon comme quelqu'un de très victorieux aussi. Donc, ce qu'il dit n'est pas forcément à prendre à la lettre, et je vais vous expliquer pourquoi après. Néanmoins, là, l'image qu'il donne de son existence est en réalité une image très terre-à-terre des choses, c'est-à-dire où la mort opère, où la mort est vainqueur, où il n'y a pas beaucoup d'espérance, où quand on regarde en arrière, ben voilà, on n'est peut-être pas très fier. Et on peut des fois, éventuellement, voir sa vie de cette manière-là. C'est-à-dire, le temps a vite passé, et puis j'ai pas fait grand-chose, ou en tout cas j'ai beaucoup souffert. Donc ça, c'est le côté pessimiste des choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le chapitre suivant, vous avez Jacob qui parle à son fils Joseph. Donc là, il ne parle pas à Pharaon, il parle à Joseph. Et au verset 3 et 4, il dit, Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. » C'est drôle parce que c'est une présentation et une vision complètement différente de ce que Jacob a pu dire à Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon, lorsqu'il a posé la question « Quel âge as-tu ?», il aurait très bien pu donner son âge, mais en même temps, ne pas insister sur le fait que ses jours ont été peu nombreux et mauvais. C'est-à-dire que là, il fait un constat négatif de sa vie, et en plus, il parle du fait que sa vie est courte. En revanche, en Genèse 48, Jacob met l'accent d'abord sur le fait d'avoir rencontré Dieu. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui s'est passé dans sa vie. Il ne le dit pas à Pharaon. Autre chose aussi, il parle du fait que sa semence sera féconde, qu'elle va multiplier, et qu'il va y avoir une multitude de peuples. Ça aussi, il ne le dit pas à Pharaon. Parce que Pharaon, du coup, aurait pris peur. En disant, mais attendons, si c'est le vrai Dieu qu'il est en train d'adorer et que ce sont des vraies promesses, on n'a pas intérêt à avoir cet homme-là sur notre sol, vu les promesses qu'il a reçues. Il vaut mieux que les peuples se multiplient ailleurs. Et c'est là où on voit que Jacob est rusé. D'accord ? C'est qu'il ne présente pas à Pharaon une vision spirituelle de sa vie, il présente une vision naturelle. Et d'une certaine manière, c'est comme ça que le monde nous voit. Le monde nous voit de façon très naturelle. Vous les chrétiens, non seulement vous êtes comme nous, vous allez mourir, mais en plus de ça, vous vous privez des choses de ce monde pendant que vous vivez. Et donc, on est vu un peu comme des gens un peu bizarres et qui ne profitons pas de la vie et qui avons encore moins d'espérance que ceux qui ne croient pas. Alors qu'en réalité, bien entendu, nous gémissons. Nous aussi, nous avons nos malheurs, comme les non-croyants ou ceux d'autres religions. On n'est pas mieux. Nous sommes pécheurs également. Nous vieillissons, nous sommes malades, nous avons nos épreuves, nous mourons. Mais nous avons aussi Genèse 48. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Tout-Puissant nous est apparu. Il s'est passé quelque chose dans notre vie. Et je ne sais pas pour vous, mais en tous les cas, Dieu nous promet aussi de rendre notre vie féconde, d'abord en termes de plénitude, mais aussi peut-être d'apporter la vie à d'autres, de multiplier les œuvres au nom de Dieu. Et il y a une postérité après nous, c'est-à-dire que nous avons l'assurance que le peuple de Dieu ne s'arrête pas à l'existence terrestre et qu'un jour on va se retrouver. Et donc le peuple de Dieu est en train de grandir en fait depuis des siècles et qu'un jour on va tous se retrouver grâce à la vie éternelle et la vie de résurrection. Donc c'est intéressant de voir là le principe du gémissement dans la mort, mais en même temps de l'engloutissement par les promesses de Dieu. C'est-à-dire que Jacob, lui aussi, a été englouti par la vie. De façon pratique, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de très charnel, de magouilleur, de menteur, de trompeur, il convoitait aussi, bref, c'était quelqu'un qui était loin d'être un saint. Donc c'était la mort qui agissait en lui, c'était le péché qui était rentré dans le monde et donc dans sa propre vie. Mais néanmoins, parce qu'il a rencontré le Dieu très haut, il a reçu des promesses, parce qu'il a cru Dieu par la foi, et sa vie naturelle, c'est-à-dire Jacob, a été engloutie par une autre vie qui est celle d'Israël, parce que c'est son nouveau nom. Et ça, c'est beau, parce que ce que j'ai pu partager dimanche, de façon peut-être plus théologique, on le voit là de façon concrète dans la vie d'un individu. C'est une théologie pratique, si vous voulez. C'est ce principe spirituel où, alors qu'il n'y a aucun espoir par la vue, de façon naturelle, par la foi, il y a une bénédiction. Et c'est intéressant parce que quand Jacob dit « il m'a béni », alors on sait qu'il a été béni quand même dans le sens où il a eu des enfants, il n'a jamais été dans le besoin, Dieu l'a béni au niveau de ses biens, et en même temps il a souffert, hein, on sait tout ça, donc je ne vais pas résumer. Et le fait qu'il soit en Égypte, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui. Mais là, je suis persuadé que quand il prononce cette phrase « il m'a béni », elle est suivie par « je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples ». La bénédiction, il n'allait pas la voir. De la même manière, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit qu'Abraham avait en vue une cité céleste, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu la concrétisation des promesses. Mais pourtant, c'était une bénédiction pour lui. De la même manière, Jacob, il va aller en Égypte, il va connaître ses 12, il sera avec ses 12 enfants et éventuellement ses petits-enfants, et sa vie va s'arrêter là. Il ne va pas voir de ses propres yeux sur la terre la multitude de peuples, et il ne va pas prendre possession du pays. Mais pourtant, il confesse qu'il a été béni. Il confesse qu'il a été béni parce que lorsque Dieu fait une promesse, c'est oui et amen, et ça va au-delà de notre propre existence. Et donc, il termine là son discours avec Joseph en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Donc ça, c'est Dieu qui a parlé à Jacob, « pour qu'elle le possède à toujours. » C'est fort de penser comme ça, parce que dans son expérience, Jacob avait vécu les prémices de cette possession, dans le sens où il est né en terre promise, et il a été éloigné de la terre promise pendant 20 ans, on voit qu'il a été restauré, qu'il est revenu en terre promise, et il aurait pu penser que c'était bon, que maintenant on allait rentrer dans la possession du pays, que sa famille allait grandir, qu'il allait avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, qu'ils allaient prendre possession du pays. Et en fait, ça n'a pas l'air de se passer comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la tête de Jacob, il n'y a pas la fin de l'histoire. Nous savons ce qui va se passer dans le livre d'Exode, mais lui, Jacob, ne le sait pas. Ce qu'il sait, c'est que de nouveau, il n'est plus en terre promise, il est en Égypte. Et qu'en plus, il a 130 ans, et qu'il risque de mourir en Égypte. Mais pourtant, il dit « L'Éternel m'a béni, et il m'a fait la promesse qu'on va posséder la terre de Canaan, sur laquelle je ne suis plus, mais on va la posséder à toujours. » Et ça, c'est comme ça que la vie engloutit la mort. C'est-à-dire que ce qu'est en train de vivre Jacob, c'est pas réjouissant. C'est-à-dire, d'un côté, il a retrouvé son fils Joseph, donc ça, c'est super. Mais le fait d'être obligé, à cause d'une famine, d'être en Égypte et d'être assujetti, d'une certaine manière, à Pharaon, et on sait en plus ce qui va se passer après, lui, il le verra pas, mais le peuple, ses descendants, eux, vont énormément souffrir de cet esclavage en Égypte. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais pourtant, devant Joseph, et donc je dirais devant Dieu, devant sa famille spirituelle, Jacob dit qu'il a rencontré l'Éternel et que l'Éternel l'a béni. Peu importe ce qu'il a pu traverser. Même s'il a eu des jours mauvais, l'Éternel l'a béni. Et c'est comme ça qu'en tant que croyant, nous pouvons susciter une vie qui engloutit la mort. C'est espérer contre toute espérance. C'est croire que la parole de Dieu ne passera pas. Et du coup, profiter malgré tout, durant ces jours mauvais, des petites touches de Dieu, où on est édifié sur notre très sainte foi, et on s'édifie les uns les autres sur cette très sainte foi. Parce que c'est ce que Jacob fait avec Joseph. Il édifie Joseph. Il l'encourage. Et donc, le monde voit notre vie d'une certaine manière, et quelque part, de façon presque prophétique, en tant qu'enseignant, Jacob décrit sa vie devant Pharaon telle que le monde voit sa vie. En revanche, devant Joseph, il décrit sa vie telle que Dieu voit la vie de Jacob. Et c'est ça qui est beau dans cette vie de Jacob, c'est qu'on voit qu'avec toutes ses imperfections, c'est quelqu'un qui avait la foi. Donc, certains ont pu se moquer de sa vie, tout comme parfois on se moque de la nôtre, mais peut-être que certains la trouvent insignifiante, et je dirais, d'une certaine façon, Jacob, comment il va terminer sa vie, on peut dire que c'est un échec. Que ça a été insignifiant. Mais pourtant, c'était le début d'une grande aventure et de belles choses. Vous savez, j'avais lu une anecdote, je rappelle, qui est Hudson Taylor. Hudson Taylor, ça a été un missionnaire qui est parti d'Angleterre pour évangéliser la Chine. Et quand il a commencé à vouloir partir en mission et dans sa famille en Angleterre, pays christianisé au demeurant, beaucoup de gens se moquaient de lui. Et notamment, une des personnes qui se moquait d'Hudson Taylor, c'était son frère. Et son frère, lui, n'est pas entré du tout dans la même vocation, qui n'était peut-être pas la sienne. En tout cas, cet homme, le frère d'Utzenthaler, qui se moquait d'Utzenthaler, a voulu faire de la politique. Alors, j'ai rien contre la politique, c'est pas le sujet, je veux dire, pourquoi pas. Mais là, le tort de cet homme, c'est de s'être moqué d'Utzenthaler. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la fin de la vie de cet homme, il a essayé de faire de la politique, mais en fait, ça n'a pas dû fonctionner, ou il a dû avoir d'autres épreuves dans sa vie, il est devenu ivrogne, et il est mort dans une misère totale. Alors qu'Utzenthaler était en Chine, parfois dans la misère peut-être, dans la persécution, dans les difficultés, mais en même temps, il apportait la vie au monde, et la vie engloutissait la mort. Et donc cet homme, lui, est mort, et sur sa tombe, la seule épitaphe que sa famille a eu l'idée de mettre, c'était de dire « Ici gît le frère d'Utzenthaler ». Et je trouve que c'est ça que l'on doit retenir quelque part. C'est que marchons avec Dieu, non pas pour qu'on se souvienne de nous, mais pour qu'on se souvienne d'une vie qui a englouti la mort. Ce qui fait qu'au-delà de notre vie, on va se souvenir de la vie qui perdure. C'est-à-dire que sur cette stèle, ou sur cette tombe, on n'a même pas voulu voir le côté hideux peut-être de l'existence de cet homme, ou même on a... Voilà, c'était plus le sujet, c'est qu'on a voulu au moins mettre sur cette stèle une trace de vie. Et la trace de vie, c'était de dire qu'il était le frère d'Utzenthaler. Vous voyez, une bonne nouvelle sur cette tombe. Et nous, nous pouvons dire, nous sommes le frère de Jésus-Christ, mais pas un frère qui se moque de Jésus ou qui le rejette, mais un frère qui va le suivre. Il fait partie de la famille de Dieu, et nous avons reçu les arts de l'esprit. Donc voilà pour... ce que je voulais dire à propos de Joseph. Mais maintenant, on va parler de Jacob. Mais maintenant, on va parler de Joseph. Et là, on va au chapitre 50. Donc là, c'est vraiment, là pour le coup, la fin de la vie de Joseph. Donc on a vu la fin de la vie de Jacob. En tout cas, il va encore se passer quelques petites choses avec lui. Mais maintenant, on va passer à la fin de la vie de Joseph, au verset 25 et 26. Donc vraiment à la fin de Genèse. Il est écrit, « Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera. » Donc ça, c'est une parole prophétique. C'est quand Dieu a visité son peuple au moment de Moïse et qu'il y a eu la délivrance. « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Alors, une chose qui m'avait marqué à l'époque, et je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est que Genèse commence par « Au commencement, Dieu créa » et Genèse se termine par « On mit Joseph dans un cercueil en Égypte ». Voilà, c'est la fin du livre de la Genèse. C'est-à-dire que ça commence par la vie et ça finit par la mort. Et ça montre, c'est l'origine de l'humanité, parce qu'en fait, le livre de la Genèse nous raconte les origines qui nous amènent au peuple d'Israël. Et Joseph, donc, lui aussi aurait pu être très négatif et se voir avec les yeux du péché, les yeux de l'échec, les yeux de la trahison. Mais et d'une certaine manière, la race humaine est un échec dans tout livre de la Genèse. Si on regarde à toutes ces personnes, Adam, c'est un échec. Abel, il a été tué par Caïn. La génération de Noé faisait le mal au point que Dieu presque se repentit d'avoir créé l'homme. Quelques temps après, c'est Babel qui est construit. Quelques temps après, c'est Sodome et Gomorre. Donc après, Dieu appelle des serviteurs et les serviteurs échouent plusieurs fois. Abraham a échoué, Jacob a échoué. Donc voilà, on peut avoir ce tableau assez noir de la race humaine et quelque part, ce tableau est noir. Mais il y a eu Dieu dans le livre de la Genèse. Dieu est intervenu de la même manière qu'il est intervenu dans notre vie. Et vous savez, la valeur de notre vie, elle est liée à l'intervention divine. D'abord, il est intervenu pour nous sauver, et j'espère pour vous comme pour moi, qu'il intervient dans notre existence, qu'il répond à nos prières, qu'il nous fait la grâce de ne pas sombrer dans un péché ou dans un autre, ou parfois il nous fait la grâce de nous sortir d'un péché, qu'il nous sort d'une façon de penser, qu'il nous guérit, qu'il nous restaure. C'est qu'on a besoin de ce Dieu-là, et c'est... S'il n'y a pas l'intervention divine dans notre vie très fréquemment, s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui nous convainc de certaines choses, s'il n'y a pas la parole de Dieu qui nous reprend ou nous encourage, s'il n'y a pas l'édification et l'amour fraternel, s'il n'y a pas une lecture de la Bible qui nous donne du baume au cœur, bref, s'il n'y a pas toutes ces choses-là, qu'est-ce que notre vie vaut parfois ? D'accord ? C'est qu'on peut remercier Dieu pour ses interventions permanentes. Et des interventions dont on n'a même pas idée parfois. Mais c'est ça qui fait la valeur de notre vie. Et Joseph, lui, alors qu'il est en train là, de donner ses dernières directives, lui, il sait qu'il va être enterré en Égypte pour un temps. Ça, c'est la mort, c'est l'échec de sa famille, l'échec du peuple, l'échec de la race humaine. Et en même temps, il croit que la vie va engloutir la mort. Et il croit que ses os vont sortir de terre pour un jour être enterré en terre promise. Et ça, c'est un type aussi de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ a été enterré. Il a été dans un tombeau pendant 3 jours. Mais pourtant, ses os sont sortis de terre pour l'éternité. Et nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que Paul utilise le verbe dormir. Nous allons dormir, mais en réalité, nous serons dans la présence de Dieu. Et un jour, nous aurons un corps de résurrection. C'est-à-dire que la vie ici-bas, bah, elle est ce qu'elle est, mais il y a la vie de résurrection, et c'est cette vie qui fait que notre vie est une bénédiction. Rappelez-vous, hein, après Genèse, donc il y a Exode, et l'Exode, ça signifie soit passage ou sortie, la sortie d'Égypte. Et nous, on va sortir de ce monde, on va sortir du péché, on va sortir de la mort, on va sortir de notre misère, on va sortir de la chair, on va sortir des griffes du malin. C'est qu'il va y avoir des sorties de tombe. La vie va engloutir la mort. Tout comme Christ est sorti de la tombe, nous aussi nous allons sortir de cette existence. Et donc, la question de façon pratique maintenant et pour conclure, comment on voit notre vie ? Est-ce qu'on la voit comme Jacob qui se décrit devant Pharaon ? Ou on la voit comme Jacob qui se décrit ou qui décrit sa vie devant Joseph ? Et qui met sur la table les promesses. Et ensuite, là, ça nous parle de Joseph. Joseph a toujours cru, parce qu'il avait reçu une vision dans sa jeunesse, qu'il allait un jour bénir les autres. Et pourtant, sa vie a été empreinte de mort, de péché, de trahison, de déception. Et pour autant, il a continué de servir Dieu. Il a toujours voulu que la vie engloutisse la mort. Il aurait pu rester dans l'amertume dans sa prison, mais pourtant la vie a englouti la geôle. Sa vie a englouti le royaume d'Égypte. Regardez comment il a béni le royaume d'Égypte. Sa vie a englouti toute sa famille. C'est-à-dire qu'il a une vie qui a béni sa famille grâce à la manière dont il a réagi et le pardon qu'il a accordé à ses frères. Et donc, nous, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on mise notre existence, notre temps, notre argent, notre façon de penser sur les os qui vont être dans un cercueil un jour, c'est-à-dire sur ce qui est éphémère, qui est vain, ou alors est-ce que l'on mise sur ce qui va sortir et aller au ciel, ce corps de gloire que nous avons déjà? Est-ce que nous allons miser sur notre sortie? De la même manière, pour parler du frère de Hudson Taylor et la vie de Hudson Taylor, quelle vie nous voulons? D'accord? Et là, le meilleur moyen de vie, je dirais comme Jacob, je ne dis pas qu'il faille commettre les péchés de Jacob, mais je parle de sa vie de foi, ou évidemment, a fortiori, la vie de Joseph. Comment les imiter, ces hommes-là? C'est d'accepter d'être englouti par les promesses de Dieu. Joseph croyait aux promesses de Dieu, et même à l'article de la mort, il ne nie pas la mort. Il leur dit, mes os vont être en Égypte, mais un jour, vous allez les sortir et les emmener là-bas. De la même manière, Jacob a 135 ans, il a quelques enfants qui n'ont pas tous été d'ailleurs très, très encourageants spirituellement, mais il est en Égypte, on a l'impression qu'il a tout perdu, qu'il a tout raté, mais néanmoins, il croit que des peuples nombreux vont sortir de son existence, parce que Dieu l'a visité, le Tout-Puissant l'a visité. Donc mes amis, ayons un regard optimiste et je dirais objectif, sur ce que notre vie est, et avec ces promesses-là, conduisons-nous comme un Joseph, pour que non seulement notre vie soit engloutie, et alors que nous sommes dans un corps de mort, mais que notre vie soit engloutie plutôt par la vie de Christ, et que nous puissions, par notre comportement, engloutir les autres par la vie de résurrection, par le pardon, par le sacrifice, le fait de prendre notre croix, de considérer les autres comme supérieurs à nous, de perdre notre vie pour la gagner d'une autre manière, bref, de tout faire pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.